quand le commerce frivole divertit par ses outils et que ça rigole dans l'opulence du mépris, quand dans la baraque on s'étend sur les divans bien loin du cloaque où pullulent les survivants. Dans l'imaginaire qui vit, je me sens tout réjoui, je rêve un monde qui me ravit, et je me dis, tout le monde il est beau, imaginons le profit.
À propos, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lecture de l'article « Faites vos jeux ».
Dans cette étude consacrée aux efforts des milieux politiques pour populariser l'illusion d'un Royaume-Uni où chacun serait enfin membre des couches moyennes, les auteurs examinent notamment les jeux officiels et officieux de la Loterie Nationale créée entre autres pour subventionner les arts. La Loterie Nationale est le genre d'institution que l'Église anglicane a toujours rêvé de devenir sans jamais y parvenir. Elle est formidablement populaire. Elle implique la participation à un rituel simple, complété par une cérémonie hebdomadaire à la télévision en prime time, et des événements complémentaires pour les fervents. Ses disciples partagent une langue, des codes, une excitation, et les sacrifices qui leur sont demandés sont légers au regard de la récompense espérée. Elle cultive de surcroît les instincts les plus nobles, puisqu'elle collecte des fortunes pour de grandes causes. Le succès est aujourd'hui total. Un an après son lancement en 1994, le chiffre d'affaires de Camelot, la loterie nationale, se monte à 4,4 milliards de livres, 7 fois le revenu annuel de l'Église d'Angleterre, très au-delà des prévisions les plus optimistes. Ce fut le lancement le plus réussi de toutes les loteries dans le monde, conclut un rapport intitulé « Jusqu'où ça ira ?». La réponse, c'est encore plus loin. Les queues pour les billets et cartes à gratter ont gagné les supermarchés, des jeux nouveaux ont été mis au point, ainsi que de nouveaux programmes télévisés. Il y a un siècle, Matthew Arnold divisait les classes entre héritiers des puritains et dévots, des spirituaux et autres distractions. La loterie signe la victoire des amoureux de la distraction sur les puritains. Avec 30 millions de joueurs réguliers, c'est l'institution transclasse la plus populaire de l'époque. À la différence des courses, où aristocrates et travailleurs n'ont en commun que de parier sur les mêmes chevaux, ceux qui jouent à Camelot, le nom qui lui sera donné, partage les mêmes frissons, plaisirs et gains. Victor Rothschild, qui meurt en 1990 à 79 ans, après une vie trépidante, fut un ami d'Anthony Blunt à Cambridge et appartint au M15, les services de renseignement pendant la guerre. Scientifique de renom, il a fondé le think tank d'Edward Heath en 1971. En bref, il fut la quintessence de l'establishment. À la fin des années 1970, il présida une commission sur les jeux. Sa carrière publique s'acheva par sa contribution à l'élaboration de la poll tax pour Margaret Thatcher. La commission Rothschild énonça une préconisation centrale : créer une loterie nationale pour de grandes causes. C'était là une initiative personnelle. Et la loterie fut largement le bébé de Victor, selon un des membres de la commission. La loterie, selon Rothschild, allait avoir trois caractéristiques. Être un monopole d'État, capable d'offrir des gains illimités, attribuer l'argent non distribué aux arts, aux sports et autres causes méritantes. Enfin, une fois mise en place, avoir son autonomie. C'est ainsi que Rothschild a inventé la loterie nationale. Il a même inventé l'expression « grande cause », un label qui allait rester. L'idée de loterie nationale n'était évidemment pas nouvelle, mais les objectifs l'étaient. Dans un passage de son rapport plus franc que tout ce qui cherchera ultérieurement à justifier l'attribution des fonds aux arts et à la culture, Rothschild déclarait « En pratique, n'importe quel gouvernement soumis à la pression de l'opinion et des partis ne peut que considérer comme impossible de contribuer de façon consistante à de grandes causes qui relèvent du désirable plutôt que de l'indispensable. Il y a un besoin criant pour notre société de leur trouver une source de financement. Non pour remplacer une mission d'État, mais pour combler le fossé créé par la disparition inévitable dans une société où l'accroissement des fortunes privées est plus difficile d'un puissant soutien privé. Les recettes d'une loterie nationale devraient être allouées en dehors des voies ministérielles et de surcroît être à l'abri du pouvoir en place. Il importe de bien saisir le propos, car il étaye toute la philosophie du système. Il se résume ainsi. Désormais, il reste trop peu de milliardaires pour mécéner les arts. On n'attend pas d'un gouvernement élu pour faire ce que souhaitent ses électeurs qu'il subventionne largement ce genre de cause, sur fond de bagarres budgétaires. Or, ce sont des activités absolument vitales et du plus grand intérêt, de grandes causes, et elles ne peuvent s'épanouir que si le gouvernement les finance d'une manière ou d'une autre. Quel meilleur moyen de les soutenir que via le monopole d'une loterie nationale? Mais pour être absolument certain que les élus ne siphonnent pas l'argent au profit, par exemple, du système de santé, il faudrait que les ministres passent un décret permettant au bénéfice de la loterie d'échapper à toute autre affectation. En d'autres termes, les joueurs pourraient avoir une chance sur 1 million de devenir extraordinairement riches, mais seulement si l'élite dirigeait l'intégralité de l'opération. La remarque de Rothschild sur la pénurie de mécènes était un argument valable dans les années 70, marqué par des impôts élevés et des salaires bas. Dans les années 90, qui voient la classe dominante atteindre des sommets, elle n'est plus pertinente. De surcroît, l'hypothèse que les parieurs puissent avoir un mot à dire sur la distribution de l'argent n'est pas même abordée, même si, à leur façon caractéristique, les dominants pouvaient considérer qu'une soupape serait nécessaire pour faire passer l'affaire. D'où le vague de l'expression choisie par Rothschild quand il évoque les autres causes éligibles à une subvention. Le football, par exemple. Sous cet angle aussi, le rapport Rothschild était un prototype. La commission Rothschild déposa ses conclusions à l'été 1978. Il ne fut pas question de légiférer avant que les Tories ne viennent au pouvoir. L'idée hérissa la fibre puritaine de Margaret Thatcher. Elle envisagea brièvement de l'utiliser pour financer le service de santé publique, mais elle se reprit. J'estimais que le gouvernement ne devait pas encourager le jeu et encore moins le relier au NHS. La loterie dut attendre l'arrivée de John Major en 1990. Les années 80 ne furent pourtant pas une période de stagnation pour l'évolution du projet. Il y eut des avancées notables concernant les grandes causes. Pour bien comprendre les enjeux, il faut évoquer rapidement le château des Rothschild à Aylesbury. Quand Anna de Rothschild épousa Lord Rosebery en 1878, elle apportait au futur Premier ministre la demeure de Mentmore. Inspirée du Crystal Palace, avec des vues à couper le souffle sur les Charterns, Mentmore était un château-musée, bourré de fabuleuses collections d'art français, acquises grâce aux soins du baron Meyer de Rothschild. Tout resta en l'état jusqu'à la mort du fils de l'ancien Premier ministre en 1978. Les impôts se manifestent. En pleine crise fiscale, le gouvernement travailliste refuse d'acheter le château et ce qu'il contient pour les 2 millions de livres demandés par le nouveau Lord Rosebery. Les collections et meubles sont vendus, principalement à l'étranger, pour 6,5 millions de livres. La protestation est assourdissante. L'héritage Mentmore devient le scandale du siècle. Le château même, vidé, héberge l'université Maharishi, le centre spirituel du parti de la loi naturelle, qui fait campagne pour l'éradication de la criminalité, de la maladie et de la misère pour le développement de la conscience transcendantale de la nation. Le sort de Mainte-Maure eut une forte influence sur la commission, qui discutait des grandes causes au moment même de l'affaire. Le refus du gouvernement de dépenser 2 millions de livres pour sauvegarder un patrimoine national mettait en lumière la question de sa protection en un temps dépourvu de mécènes, publics ou privés. L'affaire de Mainte-Maure eut une autre conséquence. Le gouvernement Thatcher prit la décision en 1980 de créer un fonds patrimonial destiné à acheter dans le cadre de succession des œuvres d'intérêt public et un cercle de membres de l'élite s'y consacra. C'est Jacob Rothschild, fils de Victor, qui en prend la tête en 1992. Il entre en scène juste au moment où son petit Kango va être transformé par la Loterie Nationale en l'un des plus riches mécènes du monde. Car 1992 voit aussi la sortie du Livre Blanc, commandé par le gouvernement Major, une loterie nationale qui rassemble des fonds pour les grandes causes. L'idée y a fait son chemin depuis l'accession au pouvoir de John Major en novembre 1990. Sensible à son potentiel de popularité et dépourvu des scrupules puritains de Thatcher, Major et son ministre Kenneth Baker souhaitaient un système qui puisse fonctionner pour les élections de 1992, ce qui fut vite réglé puisque Baker se contenta d'adopter les propositions de Rothschild. Il ajouta néanmoins une grande cause. Les œuvres caritatives en faisaient maintenant partie, à côté des arts, du sport et du patrimoine. Sans cette dimension, on pressentait que les élites apparaîtraient trop clairement comme les bénéficiaires. Il y eut la bataille classique avec le Trésor, qui dans un premier temps s'opposa à la loterie et dans un deuxième chercha à en récupérer le maximum de profits. Mais les grandes causes obtinrent 28% des gains non distribués, la part du lion. La loterie fut en vedette dans le programme Tory de 1992. Nous pensons qu'un système bien régulé et contrôlé de loterie nationale sera populaire, tout en recueillant des fonds pour de nombreuses grandes causes. Le programme précisait que les dites causes relevaient des arts, du sport, du patrimoine et du caritatif. Il proposait aussi d'y ajouter le fonds pour le millénium, destiné à parrainer des initiatives de prestige pour l'entrée dans le millénaire. Mais la répartition entre les cinq causes et les critères d'éligibilité n'était pas précisée. Le cadre allait être défini un peu plus tard, une fois les élections gagnées. Les cinq causes seraient à part égale. Autrement dit, les arts en toucheraient les 3/5, arts, patrimoine, millénium. Évidemment, au lancement de la loterie, c'était les œuvres caritatives qui arrivaient en tête de liste comme la meilleure des causes ou financées. Et les joueurs pensaient que c'était elles qui recevaient le plus. Le mécanisme distributif passa simplement pour les arts et le patrimoine au Kango et à leurs membres, représentant des couches dominantes pour qu'ils fassent de l'argent ce qui leur semblait approprié. C'est ainsi que la part pour le patrimoine alla au fond pour le patrimoine national de Rothschild et celle pour les arts à l'Arts Council, dirigé par Lord Gowrie, ancien président de Sotheby's. Même tonalité pour le fonds du millénium, administré par les grands et éclairés et présidé par le secrétaire du fonds pour le patrimoine. Pour le sport et le caritatif, ce fut le même dispositif, mais confié à de grands personnages. David Mellor, secrétaire d'État chargé des questions artistiques, qui avait pensé le cadre de la répartition des fonds, n'était pas du genre dissimulé. Il n'avait jamais déguisé ses raisons. Il expliqua à son successeur, le très urbain Peter Brook, que le projet n'était valable que s'il permettait une augmentation sensible des ressources pour les arts, le patrimoine et le sport. Son discours à la Chambre des communes en octobre 1995 fut encore plus révélateur. La critique des grandes causes commençait à se faire entendre. Il n'a jamais été prévu dans le dessin initial d'en faire bénéficier les œuvres caritatives. Mais le système devait se rendre crédible auprès de gens qui, pour la plupart, n'auraient pas mis d'argent dans les tirelires des organisations qui en sont les bénéficiaires. Quant à l'objet premier de l'exercice, personne ne s'attend à ce que la restauration de l'Opéra Royal ou la construction d'un nouvel opéra à Cardiff ait la priorité dans le budget de l'État, sur les demandes légitimes du NHS, d'où la création de la loterie. Rappelons en passant que la seule raison pour laquelle Margaret Thatcher aurait pu s'y intéresser, c'était précisément le NHS. Mellor concluait son discours sur ce plaidoyer. Je n'ai qu'une préoccupation, que la loterie nationale existe assez longtemps et avec un budget sécurisé pour que le creuset sportif et artistique de la nation en soit fondamentalement amélioré. Il serait presque temps de quitter les grandes courses pour s'occuper des prieurs, des parieurs, qui vont les financer. Mais il reste une question. Comment les grandes causes ont-elles pu sortir indemnes du Parlement? Elles ne suscitèrent que peu d'attention, mais ce peu-là fut soigneusement orienté par le gouvernement sur celles qui avaient le plus de chances de devenir populaires. Peter Brook donna le ton. Il cita dans son discours de présentation le boxeur Chris Eubank, qui sut par son exemple convaincre les jeunes que le sport offre une alternative au monde de la drogue et du crime. Ce sont précisément des bénéfices de ce genre que la loterie entend donner à la nation. Mais il était en réalité accessoire de chercher des références. Les grandes causes suscitaient peu de controverses parce que la plupart des députés et des pairs approuvaient le but de l'affaire. Ce n'est que plus tard, quand l'argent fut attribué et que les grandes causes suscitèrent l'hostilité des tabloïdes, après les 13 millions de livres payés par les archives Churchill, que la question fut soulevée aux communes. Il n'y eut que 39 voix contre. En fait, ce qui préoccupait les parlementaires, c'était le risque de voir diminuer les budgets. L'argent de la loterie viendrait-il s'ajouter à la dépense publique ou la remplacer? C'était une question particulièrement brûlante pour l'Arts Council et pour le patrimoine. Étonnamment, alors même qu'il devenait flagrant que la loterie était une réussite, les acteurs clés ne furent quasiment jamais cités. Le budget du Congo du patrimoine, dirigé par Lord Rothschild, se montait à 9 millions de livres en 1995-1996. Pour cette même année, il reçut 280 millions grâce à la loterie. C'est également ce que toucha l'Arts Council, ce qui dépassait nettement ses 190 millions alloués par le Trésor. Progressivement, ces ressources jouèrent le rôle de subvention directe au secteur artistique et patrimoniaux. La commission de Victor Rothschild avait estimé pouvoir espérer de la loterie 4,5 millions de livres pour les grandes causes à partir de sa cinquième année d'existence. Au bout des six premiers mois, le montant s'élevait à 1,6 milliard, ce qui, même avec l'inflation, s'apparentait à la différence entre le glaçage du gâteau et le gâteau. Même les associations caritatives, qui s'étaient plaintes bruyamment d'être les perdantes de l'histoire, durent changer de chanson et se contentaient de dire que certaines associations étaient mal loties. Quant au Congo chargé des arts et du patrimoine, qui recevait 5 millions de livres par semaine, il ne pouvait que saluer Kaamelott comme le Saint Graal. À qui attribuer cette manne? Les membres des Congos appartenaient tous à la même classe. Sur les 14 du fonds patrimoine, il y avait deux pairs, 5 chevaliers et dames, un professeur, un commandant de l'armée de mer, peu disposé à suivre les tendances du public. Ce qu'il considérait comme pierre angulaire du patrimoine, les archives de Sir Winston Churchill par exemple, paraissait aux joueurs ordinaires relever du don au gratin. Dans ce cas précis, que le membre le plus célèbre de la famille, héritière de la demeure historique des Churchill, fût une toxicomane habituée des tribunaux et des tabloïdes, n'aidait pas. Le fils de Sir Winston était un corpulent député Tory, ce qui n'aidait pas non plus. Un désastre, alors qu'on croyait avoir trouvé ce qu'il fallait faire comme première attribution, selon un des collègues de Rothschild. Un rapport de 1996 témoigne d'un usage créatif des statistiques. 92% des fonds sont attribués à des projets décentralisés. Absolument faux. Londres, la région comprise, s'est taillée la meilleure part. Pour 21% de la population, elle a touché 40% des fonds. 20% du 1,7 milliard de livres est allé à 7 institutions londoniennes, un opéra, une compagnie de danse, 2 galeries d'art, 2 théâtres et Kew Gardens. Excellent pour les londoniens et les amateurs d'opéra, d'art moderne et de plantes rares. Près de 80% des fonds sont attribués à des organisations caritatives et bénévoles. Là, on atteint des sommets. Toute entreprise artistique, culturelle ou patrimoniale dans le pays a le statut d'œuvre de bienfaisance. Pour la plupart des gens, le caritatif, c'est plutôt Oxfam. Et ce fragment-là, des grandes causes, ne reçoit que 5 pence sur une livre issue de la loterie. Comme le disait Lord Rothschild, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de toute cette affaire. Et vous savez, on l'a fait pour rien.
Ainsi se termine ce 5e billet. Cependant, il n'est pas le dernier de cette thématique. Un article récemment paru dans Le Monde diplomatique sous le titre « Grandes villes et bons sentiments » viendra compléter cette première thématique consacrée aux multiples sens de l'imaginaire. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la lecture de l'article « Grandes villes et bons sentiments » paru dans Le Monde diplomatique de novembre 2017 et écrit par Benoît Bréville. Et c'est avec une pièce de Miles Davis tirée de l'album Tutu que nous prenons congé. Thank you.